François Sauvy, La ville hantée. Par quelle fantaisie réfléchie, inexplicable en apparence, ou plutôt par quel caprice mystérieux de la destinée indiscernable pour des yeux humains, avons-nous été conduits, Julio et moi, à revenir ce soir-là, sans aucun autre souci que de la revoir, dans cette ville perdue de province, patrie de notre lointaine enfance, et depuis lors désertée et oubliée depuis d'immémorables années. Aucun parent, aucun ami même, aucun intérêt quelconque, non plus pour Julio que pour moi, ne subsistait en cette ville de nature à nous y amener. Je puis donc rapporter cette visite qu'à une de ces puissantes et confuses impulsions dites nostalgie qui nous contraignent parfois à revoir les lieux où nous avons grandi, où nous avons vécu. Quoi qu'il en soit, à peine descendu du train d'où nul voyageur ne descendit avec nous, il nous mit le pied sur le quai de la gare, déserte à cette heure, fût-ce l'effet de l'heure nocturne, de la demi-obscurité ou du vent froid qui soufflait à travers la salle vide sur les rouges lampions fumants, qu'un sentiment glacial de solitude et de détresse nous enveloppa. Et ce sentiment que nulle parole ne laissa percer, je le lus aussitôt dans les yeux de mon ami, avec la même rapidité qu'il me pénétra, sans doute par un soudain et instinctif effet de contraste. Le rappel se fit simultanément dans nos esprits, de nos retours d'autrefois dans le même lieu, alors que nos familles joyeuses et un nombreux concours d'amis empressés volaient à ce que venait à admirer notre arrivée. Mais, évitant de nous communiquer cette impression que nous nous efforcions de surmonter, nous nous serrâmes dans nos manteaux et après avoir traversé à grands pas la cour solitaire, au bord des trottoirs de laquelle aucune voiture n'attendait, nous descendîmes la longue avenue. Nous n'échangeâmes pas une parole durant ce trajet, peut-être maudissant intérieurement l'un et l'autre la pensée de ce voyage qui préalablement nous avait souri. Mais une fois entrés dans la ville, nous sentîmes notre commune confiance renaître en reconnaissant des rues familières, des maisons autrefois amies, en nous apercevant ainsi que l'heure devait être moins avancée que nous ne l'avions cru d'abord. Des lumières, en effet, filtraient aux carreaux, et même des passants, regagnant leur logis d'un pas hâtif, nous croisaient. Hardy, comme elle arrive au contact d'êtres humains, et loin de chercher immédiatement un refuge pour la nuit, comme avait été notre idée, nous résolûmes, recherchant à plus tard ce souci, de nous diriger à l'aventure dans les rues et de parcourir ainsi cette ville d'après l'orientation de nos souvenirs. Ce fut Julio qui formula ce projet, car, absorbé pour ma part dans mes pensées, je ne prononçais pas une parole et me contentais de le suivre. Nous adoptâmes donc la première voie qui s'offrait à nous, et dès les premiers pas que nous fîmes, notre mémoire se précisant à mesure, Nous avancions sans trop heurter dans ce dédale de rues tortueuses. À notre grande surprise, aucun changement ne nous a apparu. De nombreuses, d'immémoriales années s'étaient pourtant écoulées depuis notre en absence, et depuis bien des générations, étaient nées à la lumière dont les ombres s'éclairaient comme les nôtres, mais rien n'attestait que leur venue avait en quelque sorte transformé ou même modifié le lieu où nos pères, leurs pères avaient vécu. Ainsi, retrouvant à chaque pas, non pas des vestiges, mais les réalités palpables de nos plus lointaines impressions, nous continuâmes de marcher en silence, mus par une curiosité singulière, touchés d'une sympathie indéfinissable à revoir identiquement la même unie ville où nous revenions si différents, et passant devant quelques établissements publics, aux vitres encore éclairées, nous vîmes que cela non plus n'avait pas changé, et que, tout pareil à leurs ancêtres, les derniers venus parmi les habitants de cette ville continuaient de s'abreuver au même réservoir commun de divertissements misérables et de sensations vulgaires. Bon, Julio eut un geste violent de désapprobation et de mépris pour ces endroits de plaisir dont les bruyants échos venaient inopinément troubler le recueillement de nos esprits. Mais je lui pris la main, comme au seul ami, seul vrai compagnon, sous ma solitude et de mes joies. Et je lui dis, plaignons-les plutôt, ceux qui ne se sentent vraiment vivre que dans une avilissante communauté, de n'avoir pas connu la beauté des rêves et la douceur de se sentir isolé. On suivait toujours mon ami. En le suivant, je m'aperçus bientôt que loin de longer les rues au hasard, sans choisir ni combiner un itinéraire ainsi que Julio l'avait d'abord proposé, je m'aperçus, dis-je, qu'il me conduisait à travers la ville, non d'après un entraînement irraisonné et purement instinctif, mais en vertu d'un plan sûrement établi dans un but qui me restait ignoré. Je cherchais vainement à le percer quand, après avoir traversé plusieurs quartiers où j'aurais été pour moi fort empêché de me reconnaître, nous parvînmes à l'entrée d'une rue que je reconnus tout de suite, celle-là. C'était dans cette rue que s'élevait au temps de jadis la maison paternelle de Julio. Comment aurais-je pu l'oublier après avoir si longtemps joué sous son toit autrefois, oh, bien autrefois, durant notre enfance? Mais cette maison, vendue par Julio après la mort de son père, quand il quitta le pays pour devenir d'une maison de rapport, ne pouvait manquer, en un si long cours d'années écoulées, d'avoir été transformée au point d'en rester complètement méconnaissable. Telle était du moins l'opinion de Julio touchant cet asile familial, lorsque le hasard nous avait amené à causer de ces choses, et particulièrement le jour où l'idée nous avait venu de revoir notre nouvelle ville natale. Donc, ce ne pouvait être dans l'espoir dérisoire de retrouver intacte et debout cette antique maison, déjà anciennement délabrée, qu'il m'avait conduit jusque-là. Sans doute, me dis-je, l'idée lui est venue de, en errant à travers la rue, de voir l'emplacement où s'éleva sa maison. Quel ne fut pas mon étonnement, ou pour mieux dire ma stupeur, quand, parvenu vers le milieu de la rue, nous vîmes s'élever à droite, éclairée par un réverbère voisin, une vieille maison que je connaissais si bien et qui, je dus m'y remettre deux fois pour m'en assurer, n'avait pas changé. Un second coup d'œil, car un long examen ne fut pas nécessaire pour cela, me convainquit que si la maison paternelle de Julio avait été démolie par un acquéreur, ainsi que nous l'avions pensé en toute raison de le croire, celui-ci l'avait ensuite, par une inexplicable et déconcertante fantaisie, rebâtie avec les mêmes matériaux, absolument pareils à ce qu'elle était. Comment s'expliquer, sans cela, l'exacte et minutieuse similitude de la façade décrépite et lézardée, des vieilles boiseries encadrant les fenêtres, du haut balcon de pierre à rampe de fer cintrée, enfin des bizarres silhouettes des deux gargouilles découpant sur la toiture leur fantastique sculpture d'autrefois. Certes, on en pouvait douter, c'était la même maison, celle où était né Julio et où nous avions joué tout enfant, si vieille déjà à cette époque que les années de plus ne faisaient en accroissant, si possible, sa décrépitude qu'accentuer à mes yeux son identité. Une fois revenu de ma surprise, et déjà m'en étonnant car rien n'avait plus été plus naturel, après tout, que de retrouver debout une vieille maison qu'on avait cru disparue, je me retournai vers Julio et le vis qui, reculé de toute la largeur de la rue et adossé contre la maison faisant face à la sienne, considérait attentivement la façade de son logis. L'expression de son visage ne décelait aucunement la surprise, où devait pourtant le jeter notre découverte, mais une attention inquiète, une concentration ardente de ses yeux et de tout son être fixé sur le même point. M'étant approché de lui pour découvrir où tendait cet examen, la direction de son regard m'apprit qu'il n'avait d'autre objet qu'une fenêtre du premier étage, celle de droite, la seule qui fut éclairée. Cette fenêtre, je me le rappelais très bien tout à coup en la revoyant, était celle de la chambre de son père, du temps où mon ami habitait cette maison. Je compris alors quel souvenir venait de se réveiller dans son esprit à Julio et, pour nous, soustraire ces tristes retours de ce passé qui se dressait inopinément devant nous. Je le pris par le bras et fis effort doucement pour l'entraîner. Mais lui, comme s'il se fût aperçu pour la première fois de ma présence, « C'est la chambre de mon père, me dit-il, d'une voix basse, chuchotée et lointaine, pareille au sentiment qu'elle évoquait et que je m'effrayais de ne pas reconnaître. « Ne vois-tu pas ma mère qui est assise à son chevet ?» Alors seulement, je remarquais la pâleur de mon ami et non moins ému de l'illusion créée par sa rêverie que de l'expression de sa voix, je rendis mon regard dans la direction du sien et m'efforçai de sonder l'intérieur de la chambre. Mais rien ne transparaissait au-dessus, dehors, que la lueur d'une lampe tamisée par les rideaux. Et tout à coup, fût-ce un simple hasard ou mystérieuse rencontre de deux âmes se répondant par une occulte influence à travers l'espace, une ombre se détacha du crépuscule régnant dans la chambre et vint se plaquer au carreau. Cela fit une tache opaque sur la surface éclairée. Je tressaillis presque à cette apparition inattendue de l'étrange coïncidence qui l'amenait là. Mais combien plus en fut troublé mon ami, dont je sentis le bras trembler sous le mien et qui s'écria d'une voix entrecoupée, frémissante. « Mais c'est elle! Oh, c'est elle cette fois! Ne la reconnais-tu pas? Oh, sûrement elle s'inquiète de ne pas me voir auprès de mon père mourant. Oh, j'y vais! » cria-t-il. Et d'un mouvement violent, il m'échappa, et emporté par la soudaine folie qui le possédait, il allait s'élancer contre la porte de la maison pour s'efforcer de l'ouvrir, lorsque brusquement la clarté de la chambre s'éteignit et la vieille maison retomba aux ténèbres. Nous demeurâmes face à face, silencieux et stupéfaits, doutant pour ma part si je ne venais pas d'être le jouet de quelque illusion. Mais déjà j'avais repris Giulio par le bras avant qu'il fût revenu de sa stupeur, et je l'entraînais avec moi loin de cette maison visionnée. Je conduisais ainsi, sans m'inquiéter de savoir où nous allions, dévalant les rues au hasard, préoccupé seulement de l'arracher par la distraction de la marche et du mouvement à la funeste vision qui venait de l'assiéger. Bientôt, pourtant, nous ralentîmes, car le heurt de nos talons résonnant à cette heure de la nuit dans les rues désertes et se répercutant aux murailles, nous choqua, nous aussi, par ce qu'il avait d'insolite. Nous étions arrivés, alors, toujours sans mot dire, sur les quais devant la rivière, et nous ne fûmes pas peu surpris de voir que, malgré l'heure que nous jugions avancée, quelques groupes de promeneurs erraient encore sur les trottoirs. Cependant, en ces habitudes de noctambulisme quotidien sans doute, rien ne nous eût paru de nature à créer notre curiosité, si, en regardant de plus près avec plus d'attention ces promeneurs, nous n'avions observé avec un redoublement de surprise bien compréhensible, qui n'échangeaient pas une parole, et que, parmi ces hommes s'en allant ainsi d'un pas traînant et par groupe de deux ou trois, n'y en avait pas un qui parut se douter qu'il n'était pas seul. Julio, à qui la marche et l'air vif qui soufflait avaient enfin rendu la possession de lui-même, partagea mon étonnement et déterminé à éclaircir sur le champ ce phénomène inexplicable, nous nous approchâmes d'assez près pour que le silencieux noctambule vienne à nous rencontrer, forcément dans la zone de lumière projetée par un bec de gaz. Mais quel vertige nous saisit, quel frisson glacial nous traversa jusqu'au moi-même, lorsque, nous étant penchés au-devant des arrivants, nous constatâmes avec évidence, sans la moindre même pointée d'un doute, que parmi ces hommes, il y en était de notre connaissance et que nous savions très bien mort depuis longtemps. Cette vue, une terreur jamais éprouvée et que rien ne saurait rendre, paralysa instantanément tous nos muscles, notre langue, jusqu'à notre volonté. Nous étions là, muets, affolés, hagards, devant ce spectacle que nul œil humain n'avait contemplé, si près, à coup sûr, que ces spectres fussent pour nous prendre pour deux de l'heure, mais ils continuèrent imperturbablement leur promenade, sans dévier de leur marche inexorable, ni même à tourner la tête, et sans que se manifestât qu'ils eussent conscience de notre présence, ni chose plus touchante encore et terrifiante de la leur. Derrière eux, d'autres promeneurs approchaient, mais cela, nous ne les attendîmes pas. La terreur d'un nouveau tête-à-tête avec des visages que tout nous disait, nous devions déjà connaître, fut d'abord plus forte que l'horreur qui nous avait d'abord cloués sur la place, et retrouvant instantanément nos esprits et la rigueur de nos muscles, nous allâmes droit devant nous, aussi vite que nos jambes harassées purent le permettre. Las de courir et suffoqués, nous fîmes halte enfin, et ce fut non pour sourire ou nous railler mutuellement de notre effroi, mais pour nous assurer que rien ne subsistait autour de nous de nature à le raviver. Mais non, tout était tranquille et silencieux. De grands arbres dénudés par l'automne se balançaient à droite et à gauche sous le vent froid de la nuit. La lune, arrivée au zénith, répandait sur la terre d'une avenue et dans l'atmosphère limpide sa clarté spectrale, où les branches nues se découpaient à vives arêtes sur la sombre de l'azur. Je reconnus que nous étions dans la principale allée d'un jardin public qui sert de promenade nouvelle, annuelle et habituelle aux citadins, et où jadis s'étaient essayés nos premiers pas. Donc, rassuré par l'apparente solitude du lieu, nous délibérâmes de ne pas quitter le jardin et d'attendre dans le soleil, car rien au monde n'aurait pu nous décider à rentrer avant l'aube dans cette ville habitée des morts, où cette nuit avait ramené pour nous une telle procession de fantômes. L'âme encore bouleversée de ces impressions lugubres, nous errâmes à pas lents dans les allées, le front courbé vers la terre, cherchant vaguement dans la poussière, avec la trace, hélas abolie de nos pieds, d'enfants, quelques attestations moins éphémères de ces immémoriales années révolues. Alors, le poids de tant de jours vécus vainement nous accabla. Le vide de toutes les folles illusions qui nous avaient jusque-là soutenus nous glaça le cœur. Et poussant du pied les feuilles desséchées qui jonchaient les avenues, il nous semblait rouler les débris de tant de choses qui n'étaient plus. Et soudain, au détour d'une allée, la clarté de la lune tomba sur le front de Julio et m'éclaira son visage ravagé. Et songeant alors que je devais lui paraître tout aussi vieilli que lui, l'idée me vint, pour la première fois, que de tous les spectres rencontrés la nuit en cette ville de mystère, c'était peut-être nous les plus morts. Eux, du moins, s'ils avaient gagné, gardé quelque chose de la vie, c'était après tout que le regret de leurs habitudes perdues. Et n'ayant pas connu la trompeuse volupté des rêves, ils n'avaient pas à traîner comme nous dans leur promenade nocturne la chaîne de leurs chimères et de leurs tant d'espérances déçues. Mais comme nous arrivions à l'endroit où toutes les allées convergentes se réunissent en manière de rond-point, il nous parut qu'une animation inattendue remplissait cette partie du jardin. Des enfants, vêtus de couleurs claires et chatoyantes, qui leur donnaient l'air de fleurs vivantes, écloses parmi les parterres, jouaient sur le sable, tandis que leur mère, assise au pied des grands arbres, les couvait amoureusement. Puis, à travers l'épaisseur des massifs, des ombres légères, des ombres de femmes, presque incolores, de leur inconsistance d'une vapeur, glissaient sans laisser de traces, en traçant après elles, en les traînant de longs regards langoureux. Un même mouvement fut pour tous les deux de courir après et de les saisir, mais leur forme impalpable s'évanouissait à notre approche et semblait se jouer de notre terreur. Et nous nous regardâmes émus l'un et l'autre, avec une larme dans les yeux, car dans ces lugubres ombres légères et plus fugitives que des rêves, nous venions de reconnaître, comme personnifiés, pour ainsi dire, sous la forme qui leur était propre, chacune des joies, chacune des ivresses, chacune des idoles de notre vie. Oui, telles avaient passé souriantes, vêtues comme ces ombres de couleurs vives, tendre et dispensatrice d'oubli. Les heures enchantées, les extases folles de notre lointaine jeunesse, dont le douloureux regret aggravait aujourd'hui d'un fait si cruel notre décrépitude. Alors, je me penchai sur l'épaule de Julio et je lui dis « Ce sont des ombres anciennes, de chères ombres des jours de jadis, qui furent d'heureuses, riantes et jeunes figures, et qui ne sont plus que des ombres, et qui reviennent la nuit ».